Et vous écoutez France Culture. Une carte au trésor, c'est une moitié de savoir qui réclame son autre moitié d'imagination, de déchiffrement, de circumnavigation ou d'action. Tristan Garcia. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui déploiera ce soir, grâce à la revue Carbone, toutes les cartes envisageables de tous les trésors possibles. Carbone, déjà un magazine web, inaugure en effet sa version solide en exploitant sous toutes ses formes de l'exploration antique aux jeux vidéo le thème de la carte au trésor, son mythe, sa traque et ses métamorphoses. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre consacré ce soir, une fois n'est pas coutume, à une revue. La précédente fois que nous avions consacré une émission entière à une revue, dans mon souvenir, c'était pour les 20 ans de la revue Bifrost. Et là, c'est pour les 1 an, même pas, le premier numéro de la revue Carbone. Je serai entouré ce soir pour évoquer cette naissance, pour se pencher, nous sont les bonnes fées qui nous pencheront sur ce berceau. Je serai entouré de Raphaël Pellassa. Bonsoir.
Bonsoir.
Et de Yann Sadat. Bonsoir. Bonsoir. L'un est directeur éditorial.
Directeur de la publication.
Rédacteur en chef, voilà. Directeur de la publication de Carbone. Yann Sadat, vous êtes collaborateur et vous avez donné un article qui concerne quoi exactement ?
Qui concerne la filiation entre Steven Spielberg et J.J. Abrams.
Voilà. Et c'est donc le premier numéro d'une revue, on va revenir plus en détail tout au long de l'émission sur l'histoire de Carbone, qui était avant un site, qui était un magazine web, qui était quelque chose de...
Qui était déjà un magazine web, tout à fait, ouais, qu'on a lancé en avril de l'année dernière. Et l'idée, c'était de commencer à exister et à publier des papiers qu'on espère de qualité, en accès gratuit, tout en finançant les gens. Voilà, en finançant les auteurs, en tout cas.
Bah oui, c'est toujours une meilleure garantie. Yann Sadat, vous, pour vous présenter, ou si vous, Raphaël, pouvez présenter Yann Sadat, comme qui est-il? C'est toujours intéressant de demander au directeur de publication de présenter son collaborateur, ses collaborateurs.
C'est un des premiers collaborateurs qu'on a contacté avec Jérôme Dietmar, notre rédacteur en chef, qui a officié chez Crow, qui était cofondateur de Games. Et qui m'a présenté Yael en me disant « Ce garçon peut écrire sur tout, il faut qu'il soit près de nous ». Et aujourd'hui, Yael écrit tous les mois pour nous.
Tous les mois pour
Webzine inclus. Tous les trois mois pour la revue papier. Et il écrit et il co-réalise une de nos émissions vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Double Impact » avec Yvan Sougy. Voilà, c'est une capacité à creuser sur des sujets mainstream, à connecter le passé et le présent, et à les explorer relativement bien en profondeur et de manière très accessible.
Yael Sadat, quels sont vos mauvais genres à vous ?
Oh, moi, les mauvais genres, je dirais, je les cherche du côté du cinéma de genre des années 70 essentiellement, le polar aussi.
Vous êtes chez vous donc à mauvais genre, très bien.
Je suis chez moi à mauvais genre. Par ailleurs, en dehors de la critique, j'écris, je travaille sur une thèse que j'achève, consacrée aux Vigilant Movie. Donc voilà, les Charles Bronson et les Clint Eastwood,
justicier dans la ville,
les rues de New York et de San Francisco dans les 70s, voilà.
Et qui prendra la forme, j'imagine, d'un livre.
Absolument, je l'espère.
Voilà, très bien. On sera attentif puisque effectivement toutes ces productions, tous ces vigilant movies font partie de l'ADN de Mauvais genre depuis le démarrage. Alors on va passer à une rubrique bien évidemment qui n'en est plus à son numéro 1, mais à son numéro, je ne sais pas, quelques centaines. C'est l'encyclopédie pratique des mauvais genres de Céline Duchesnay. Quelle est la lettre ce soir, ma chère Céline ?
À la lettre M comme magique, miroir magique.
Un jeune lycéen d'un lycée de Brest qui était en visite dans l'exposition a bravé l'interdiction de la mise à distance qui était proposée pour regarder le miroir magique. Dans le miroir magique, il ne faut pas se regarder soi-même dans le miroir. Et le jeune lycéen, voilà, comme souvent sans doute à cette époque de l'adolescence, a bravé l'interdiction et s'est regardé. Et le lendemain, il s'est trouvé qu'il a été hospitalisé, il a fait une crise d'appendicite subite. Alors, est-ce lié à l'attaque du miroir ou pas? Personne ne le saura, mais ça, voilà, ça fait partie des coïncidences, en tout cas, qui nous ont amené un peu à voilà, nous poser ce type de questions.
Un camion transportant l'ensemble des objets magiques qui voit son réservoir d'essence percé sur le chemin du musée. Un adolescent qui tombe malade, des gardiens qui demandent à ce que les objets magiques soient vérifiés par un médium. Pas simple d'organiser une exposition sur la magie et la sorcellerie. Pourtant, on savoure sa victoire une fois que l'on se retrouve à Rennes, au Champ Libre Musée de Bretagne. Présentée sans jugement de valeur et avec une grande ouverture d'esprit, l'exposition invite à se questionner sur les croyances, on ne parlera jamais de superstition, et les pratiques magiques de notre société. Objets, images, photos, livres, talismans, envoûtements d'amour ou de haine, d'hier ou d'aujourd'hui, et placer dans une vitrine un miroir magique. Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne.
Sur le miroir magique, c'est un objet qui est dans les collections du musée des arts et traditions populaires et qui, de mémoire, avait été reçu justement en don par la Poste avec simplement « Ceci est un miroir magique ». Donc assez peu de documentation finalement sur l'origine du miroir. Mais le médium qui l'a expertisé, comme justement chargé de force.
Quand on est face à la vitrine, il y a donc bien le miroir magique qui est posé à plat, dans lequel on ne peut pas se regarder. Et à côté, donc une boîte en polystyrène, du charbon. Et il y a un texte aussi qui est posé sur le charbon. En quoi consiste, enfin une feuille avec des mots écrits dessus, en quoi consiste cette feuille?
Alors la feuille en quelque sorte c'est la procédure finalement, c'est les consignes à adopter pour sa présentation et finalement la manière de le conserver. Après c'est la même problématique que les objets que vous voyez présentés ici. Donc dans cette partie sur les pratiques d'envoûtement, donc ce qu'on appelle l'agression magique, donc là on est véritablement dans la recherche du malheur sorcier, c'est-à-dire un sorcier commandité par quelqu'un forcément va vouloir du mal à quelqu'un d'autre. Et le sorcier va mettre au point un certain nombre d'objets, ce qu'on appelle des poupées d'envoûtement ou des dagides, qui vont, au travers d'un rituel, donc une sorte de cérémonie qui va comprendre voilà, l'insertion de cette poupée au sein d'un rituel, avec des paroles magiques, des incantations. Et puis ensuite, souvent, la poupée, elle est également enfouie ou, on va dire, placée dans un endroit de l'environnement quotidien de la victime pour que, justement, les forces se déploient. La présentation de ces objets, elle impressionne parce qu'en fait, elle semble venir finalement d'une autre époque. Alors que l'ensemble de ces objets ont été collectés par un ethnologue qui s'appelle Dominique Camus, qui a beaucoup travaillé sur la sorcellerie en France et notamment en Bretagne. Et c'est des objets qui datent des années, grosso modo, 1980 à 2000.
Le miroir magique et ses acolytes sorciers sont à retrouver en ce moment et jusqu'au 1er avril 2018 au Champ Libre Musée de Bretagne à Rennes grâce à l'exposition « J'y crois, j'y crois pas, magie et sorcellerie ». Une exposition que je vous recommande vivement tant elle est belle et réussie, elle qui permet d'ouvrir notre regard sur le monde et ses perceptions. Par ailleurs, ne ratez pas la semaine des magies à Marseille qui dressera un état des lieux des pratiques magiques et occultures contemporaines. La semaine vient de démarrer aujourd'hui et se clôturera le 4 mars à Marseille, donc à l'Équitable Café, au Vidéodrome 2 et à l'Asile 404, au programme rencontres, rituels, performances, ateliers, conférences, projections, concerts, spectacles, avec par exemple un documentaire sur l'ethnologue Jeanne Favre-Saada demain et une rencontre avec elle, une soirée consacrée aux sorcières mercredi 28, une autre consacrée au lien entre magie et politique vendredi 2 mars et clôture dimanche 4 mars avec une journée dédiée au satanisme.
« Voilà, nos invités de la rue Carbone, Raphaël Pénaza et Yael Sadat, ont une espèce de grand sourire épanoui dès qu'on parle de luciférisme et de sorcières. Alors Carbone, on va voir les choses plus en détail dans le cours de cette émission, Raphaël Pénaza, mais c'est une revue qui est mise chaque fois sous l'invocation d'un thème, d'une figure. Le premier, c'est la carte au trésor, comme je l'ai dit, donc on va randonner dans la carte au trésor. Le second, printemps 2018, ce sera la maison hantée. Et d'ailleurs, en fin de magazine, on voit apparaître la maison hantée, mais c'est hantée par le mal, la maison de psychose. Les sorcières, ça peut être, et les miroirs magiques, ça peut être tout à fait pour vous, ça.
C'est prévu.
C'est prévu ?
Oui, c'est tout à fait prévu, oui.
Voilà, dans les temps à venir, nous aurons donc un Carbone spécial sorcière.
Spécial sorcière, magique, mais avec un cas, tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie.
Magique, Aleister Crowley, ou des figures sombres comme ça.
Jack Parsons, tout ce qui peut tourner autour de l'occultisme et son ancrage dans l'histoire.
Alors Jack Parsons, on le connaît bien parce qu'effectivement, grâce à Erwan Chardonnay, livre paru chez Inculte, on a pu découvrir cet étonnant personnage qui était à la fois concepteur de carburant pour la NASA et grand pontife luciférien. Yael Sadat, vous connaissez Jack Parsons ? C'est un personnage qui...
De loin,
ouais, vous restez prudent.
Mais de loin, je garde mes distances.
Mais Yael Sadat, vous, quelles sont vos sorcières préférées ?
Oh, mes sorcières préférées... Je ne sais pas si j'ai des sorcières préférées. Je suis un peu un touriste de la sorcière.
C'est-à-dire, vous allez sur les traîner dans les sabbats.
Exactement, voilà, exactement. Non, moi j'ai des Amazones. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera puisqu'on a potentiellement un sujet. Ce sera les sorcières plutôt héroïques. Moi, il y a beaucoup de personnages de femmes. Que ce soit dans le Woman's Picture, que ce soit en bande dessinée ou que ce soit dans des films plus contemporains, qui sont peuplés de femmes fortes. Des femmes fortes.
C'est un peu viragophile comme notre invité.
Exactement, voilà, exactement. J'ai aussi un petit côté Robert Crumb, ça doit être ça aussi.
Voilà. Très bien. Écoutez, messieurs, on sera attentifs à la suite de Carbone. En tout cas, bien aujourd'hui, ce qui nous retient, c'est le premier numéro, donc le papier, premier numéro solide, préhensible, disponible en librairie de cette revue qui nous concerne au premier chef, puisqu'elle exploite l'univers des genres et de la pop culture. Ses invités en sont le directeur de la publication, Raphaël Pénaza, et donc Yael Sadat, un des collaborateurs.
In my mind, I see us in a far and distant place. My hands start to caress you. Go from your shoulders to your waist. I kneel down and kiss you. That's right, you know the place. Your body starts to ignite. It's so much pleasure, so much delight. So swiftly I make my move. Inward bound, the must move. You softly call my name. I'll stretch and let the pain.
Alexis Shelby et par choix de Laurent Polleret pour notre playlist carbonifère de ce samedi dans Mauvais Genre. Raphaël Pénaza, vous êtes donc directeur de la publication. Et quel est un peu votre parcours ? Il y a 20 ans, on démarrait Mauvais Genre. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 20 ans ?
Il y a 20 ans, je faisais des fanzines dans mon lycée. On faisait un fanzine avec un des collaborateurs qui est dans la revue d'ailleurs, qui fait l'illustration, il s'appelle Antoine Brivet. Un copain qui est devenu... il est rédacteur adjoint au Temps, oui. Voilà, sur la partie numérique, qui est incroyable, Jean habite ici.
Et vous étiez déjà porté sur la SF, le fantastique, la bande dessinée.
Ouais, on faisait déjà du polar fantastique, on faisait de la fantasy, on racontait un Venise asséché, mêlé de magie, on faisait des cadavres esquis en bande dessinée et en texte de théâtre.
Vous étiez déjà très mal parti.
Oui, exactement.
Alors, Carbone est implanté à Lyon. Lyon, c'est vrai que c'est la ville des bêtises. Hein. On a tout inventé, la maçonnerie ésotérique, le luciférisme. C'est une ville, pour ça, étonnante. Comment vous êtes implanté à Lyon? Vous êtes franc-tireur? Vous êtes inséré dans une vie culturelle régionale? Vous avez des aides locales?
Alors j'y suis né, ce qui était déjà une bonne raison pour y rester et pour y revenir. Ensuite, on a monté la société après l'effondrement des studios de jeux à Lyon.
L'effondrement des studios de jeux, c'est-à-dire ?
Il y avait plusieurs gros studios de jeux à Lyon qui tournaient il y a une dizaine d'années. Ils sont à peu près tous tombés au même moment et on s'est retrouvés sans activité ou à travailler en indépendant. Et c'est là où en fait j'ai rencontré mes associés. C'était dans le jeu vidéo à Lyon. Et on a monté la boîte maintenant il y a 8 ans.
Alors la boîte, c'est les studios Phones.
C'est le studio Phones, qui est un studio transmédia. On raconte des histoires, quel que soit le support. On a un département effets visuels, on fait de la 2D, la 3D, tout ce qui peut permettre de truquer, de raconter l'image. On a un département réalité virtuelle, avec un projet qui a été sélectionné à Sundance. C'est de la réalité virtuelle narrative. Et ensuite, on a le département éditorial qui est Carbone, voilà, sur lequel on a créé des postes avec l'envie. On a commencé il y a 2 ans et demi maintenant à travailler dessus. Et ça s'est concrétisé avec le lancement du site, avec les premiers prototypes réalisés avec la complicité de Superscript, le studio de design graphique qui est basé à Lyon, qui est complètement dingo. Et puis un imprimeur qui est à Grenoble qui s'appelle Depont, qui nous accompagne depuis le début. Voilà. Et on est accompagné, on s'est structuré sur le projet avec l'aide et la complicité de la BPI en région, de notre pôle de compétitivité Imaginov. Et on est vraiment bien accompagné en fait. On a des gens qui ont vraiment cru.
Voilà, donc quelqu'un comme vous, quand il est installé à Lyon, j'imagine c'est pareil à Bordeaux, avec là aussi, il y a une grande activité autour de la bande dessinée, de la science-fiction, du fantastique. Il
faut quand même partir du principe qu'au départ, je ne connaissais rien en fait. Il a fallu tout apprendre la dure, s'entourer. Et j'ai la chance de travailler avec des gens plus intelligents que moi, qui connaissent leur métier, qui permettent en fait, qui amènent chacun une brique au projet et qui permettent de voir le jour. Et ça va de ma directrice générale Flore au fonds d'investissement qui nous a rejoint, à mon directeur artistique, à l'ensemble de l'équipe qui est là aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui pour moi a toujours fait la spécificité de Lyon, tant au niveau technique qu'artistique, c'est qu'on a des profils qui sont pluriels. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont capables de faire du matte painting comme ils sont capables de faire du motion design, de l'animation 2D. On a des gens qui sont capables d'être community manager et en même temps capables d'écrire des histoires. On a quelqu'un qui s'occupe de la relation libraire et qui en même temps est game designer. Il sort un jeu de plateau cette année, il a sorti 2 jeux l'année dernière, il fait de la bande dessinée. Enfin, on a des profils qui sont extrêmement compétents, variés et qui recherchent pas, enfin, qui s'ennuient très vite s'ils font qu'un seul truc en fait.
Alors on remarque d'ailleurs dans les noms qui composent le comité rédactionnel, le groupe rédactionnel de la revue Carbone, des gens qui viennent de Chronique Art. C'est vrai que quand on regarde Carbone, donc le numéro 1 spécial carte du trésor, l'autre sujet d'aujourd'hui sur Mauvais Gens, on retrouve des noms qui sont un peu de Chronique Art. Il y a une aspiration, il y a une filiation.
Il y a une filiation, très clairement. Moi, Chronique Art, c'était une revue que j'affectionnais énormément. J'ai découvert beaucoup de choses avec Chronique Art. Le projet de Benoît Morer et de ses équipes chez moi était révélateur de beaucoup de choses. J'aimais le site web, j'aimais la revue. Et quand on en a parlé quand la revue a disparu, ça manquait. Une revue généraliste qui me permette de...
Alors qu'est-ce qui manquait en tant que...
En fait, c'était une revue généraliste qui arrivait à défricher tout en donnant des clés avec des choses du passé. C'est les connexions entre Joe Daly, Robert Crumb, des connexions entre qui pour moi n'étaient pas évidentes à l'époque, entre Del Toro et les RKO, des choses qui étaient que je sentais sans arriver à mettre le doigt dessus.
C'est-à-dire à créer une profondeur de champ dans un secteur qui est peut-être un peu trop voué automatiquement au présent.
C'est ça.
À créer des enracinements, des perspectives.
Exactement. Oui, c'était, il y avait une résonance avec aujourd'hui et en même temps, donner envie d'aller ailleurs. Et cette revue-là, pour moi, c'était le principe d'une bonne histoire. Ça donne envie de quelque chose. Il y a d'autres revues aujourd'hui qui le font. Segments. Moi, j'adore Cinématiseur sur le cinéma.
Cinématiseur.
Cinématiseur. Je trouve que c'est une revue qui est devenue précurseurs dans son secteur. Ils sont sur le mainstream, mais ils sont en train d'essayer de défricher quels sont les chefs opératrices de demain, quels sont les propos de demain, les artistes de demain. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Il y en a Bifrost sur la découverte de novellistes et de romanciers.
Qui depuis 20 ans défrichera-tu.
Exactement, c'est là où j'ai découvert Ken Liu. Je vois l'amour inconditionnel aux nouvelles de Ken Liu, qui est pour moi, non pas un nouveau Neil Gaiman, mais quelqu'un qui m'excite artistiquement, en fait, qui me stimule, que je trouve assez dingue. Et donc du coup, quand Crow a disparu, ça m'a semblé manquer. Et moi, ça faisait déjà quelques temps que j'avais envie de faire un projet éditorial, mais plus connecté à mes usages. C'est-à-dire que j'avais déjà un iPhone dans les mains, je consultais pas mal dessus, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup. Et j'avais un de mes collègues et amis qui m'a dit, quand l'iPhone est sorti, il m'a dit « ça, c'est la console de demain ». C'est un texto, on était... Je me rappelle au bureau, il est arrivé avec son appareil. Et en fait, effectivement, on plonge dedans, on l'a utilisé. En fait, on s'en rend peut-être même plus compte, mais il y a 6 ans, on fonctionnait pas du tout comme ça, quoi. Et avec Carbone, et en travaillant avec Jérôme Dittmar sur construire la ligne, construire les usages, on s'est dit, on voulait vraiment faire une revue qui soit à part et qui propose du contenu dédié par support. Voilà, on ne propose pas la même chose sur le web que sur le papier.
On va en parler. Il y a le soldat de vous, il y a 20 ans, vous faisiez aussi des fanzines, vous faisiez...
Ah non, à la rigueur, je lisais des fanzines, ou j'apprenais à lire des fanzines, ouais. Il y a 20 ans, et puis par contre, je rêvais déjà de territoires éclatés comme ça, entre le cinéma, le jeu vidéo auquel je jouais beaucoup, il y a 20 ans, et je dois avouer encore aujourd'hui un petit peu, voilà.
Et vous êtes construit avec quel type de revue? Avec Chronique Art? Avec des revues comme...
Ça a été Chronique Art un peu plus tard, mais j'ai commencé très classiquement avec les revues de cinéma. Les grandes revues de cinéma, Première
en 95,
ou Studio, voilà.
La révélation.
Exactement, la couverture Spielberg-Besson, par exemple. Et ensuite avec le passage obligé pour un cinéphile, c'est-à-dire les cahiers du cinéma, Positif, voilà.
Donc à la fois une tête bien faite théoriquement et quelqu'un d'un peu dessalé sur le plan des pratiques, des supports et qui sait
essayé.
Circuler.
On a essayé, effectivement.
C'est vrai que les cahiers sont, pareil, sont extrêmement fondateurs. J'ai décroché pendant un moment, j'y suis revenu. Je me rappelle exactement, c'était un numéro, je crois, de 2013, avec deux papiers de Vincent Maloza, un sur John McTiernan et un sur Star Trek, qui, je sais pas, d'un coup, j'ai replongé dedans.
Il y a eu un gros pas de côté vers le genre, ouais.
Ouais. Ouais.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Patterns of Contrast par MSL, un choix de Laurent Polleret. Alors, une revue, ça se met évidemment sous l'invocation d'un nom. Ça, c'est quand même important, puisque ça détermine à la fois une prononciation, quand vous arrivez chez le libraire ou en kiosque, ça détermine un imaginaire, une capacité à traduire, parce que si jamais vous devez présenter la revue à un ami, à un collaborateur, à un éventuel contact à l'étranger, il faut pouvoir traduire. Alors, le mot carbone. Parce que moi, quand je pense à carbone, ça, c'est peut-être lié à France Culture, je pense à carbone 14, je pense pense à tout ce qui est carbone, ce qui permet de faire des fouilles dans les profondeurs.
Ce qui permet de dater en réalité.
Alors voilà, dater. Alors, carbone, pourquoi carbone?
Carbone, c'est.
Raphaël Penaza.
C'est le matériau qu'on trouve en commun dans le papier et dans le numérique aujourd'hui. Et c'est, très symboliquement, c'est un matériau peu noble qui, mis sous très haute pression, nous donne un diamant. Voilà, c'est... Et là, le carbone, c'est qu'on trace, sur le mur, on garde des éléments, on permet de dater dans le temps. C'était toute l'ambition du projet.
Donc à la fois marquer son temps, dater son temps et circuler à l'intérieur du temps.
Exactement.
Voilà, c'était le but. Alors, au départ, il y avait donc Carbon Inc. qui était un site. Alors, donc, moi, j'ai découvert à propos d'un article de Martin-Pierre Baudry, que je salue d'ailleurs, sur Jean Rey. Et puis, j'ai circulé à l'intérieur du site et j'ai été frappé. Donc, il y avait un grand travail sur des couleurs franches, extrêmement fraîches, des crèmes aériennes, une grande souplesse de fonctionnement, quelque chose de très ondoyant, de très aérien. Là aussi, et puis en même temps, alors évidemment, de même, on parlait de Chronique Art, une grande exploration du domaine des genres, que ce soit les comics, la littérature de science-fiction et fantastique, le polar, le cinéma, donc il y avait tout. Comment s'est un peu géré cette aventure de Carbon Inc., le webzine?
Alors, en réalité, parmi les éléments, les mots-clés qu'on avait au départ, c'était densité et générosité. Et en fait, c'est ce qui a toujours guidé le travail et la conception. On a travaillé avec un studio indépendant qui s'appelle Warc, sur la création du site. Et on voulait pouvoir mettre suffisamment d'éléments pour donner envie de rebondir. Que ça soit dans la suggestion, que ça soit du lien hypertexte, que ça soit de la note supplémentaire. Donc il y a eu un réel soin qui a été apporté à l'expérience utilisateur. Fallait que ça fonctionne sur un écran à 27 pouces et fallait que ça fonctionne sur un portable. Et c'est aujourd'hui le même soin que One More Thing Studio, ceux avec qui on travaille sur l'application, apporte à cette notion d'expérience-là. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on fonctionne brique par brique, élément par élément. Donc on fait des petits pas, mais on va compléter, on va densifier tout ça. On a une application... qui part en soumission chez Apple, donc qui devrait sortir la semaine prochaine, sur lequel on pourra scanner toutes les pages marquées du logo.
Alors justement, on va évoquer un petit peu la revue qui sort là, le Carbone tout court, qui est une sorte d'hyper revue puisque il y a le Sadat, il y a à la fois, je dirais, une bonne vieille revue, combien, 250 pages.
Alors pour le premier numéro, on était un peu, c'est un peu gros, ça fait 272 pages.
272 pages.
580 grammes, mais on va être à 252 pages.
Maquetté, couleur, avec vraiment un grand travail sur la composition des pages. Mais il y a également donc une application, comment dirais-je, smartphone, et puis en même temps le site. Donc tout ça va fonctionner ensemble. Comment allez-vous un peu, puisqu'il va être question de carte au trésor, quelle est un peu la topographie de tout cela?
C'est vraiment la notion de sérendipité, c'est-à-dire donner des clés d'entrée dans des sujets, dans des genres, dans des auteurs qu'on ne connaît pas forcément, et de pouvoir se balader d'un sujet à l'autre, d'un auteur à l'autre, assez simplement. La revue, c'est on la veut pas comme un gadget, parce qu'il y a la possibilité de lire en déconnecté les articles proposés par le site, les suggestions qui sont faites en fonction de nos profils, de ce qu'on aime, et la possibilité de scanner certaines pages pour avoir plus de contenu, avoir des informations sur un auteur, avoir de la vidéo, avoir de la musique, puisqu'on a aussi une chaîne sur Spotify avec des playlists mensuelles qui sont programmées par Rémi Boiteux, des découvertes. Et on va finir par avoir utilisé tous les talents du studio pour avoir de la réalité virtuelle, pour avoir du jeu textuel collaboratif, pour avoir du jeu vidéo.
Voilà. Tiens, quand en plein milieu de la lecture d'une page, on peut s'arrêter, flasher,
exactement.
Et puis on a accès encore à une autre dimension.
C'est ça. Et on propose couche par couche par couche pour avoir un objet et un objet de navigation. Voilà. L'objectif, c'est que ça devienne un outil de plaisir, d'exploration, et en avoir réellement pour trois mois de lecture.
Parce que en définitive, ça peut être une sorte de numéro. La revue est vraiment une sorte de port de départ, enfin un point de départ, et on rayonne dans des univers de plus en plus larges, et la revue peut s'enrichir au fil du temps, puisque rien ne vous empêche
de compléter. C'est exactement
l'idée. De compléter.
Oui, et notre rédacteur en chef est allé un petit peu plus loin, vu qu'il a commencé à connecter les revues entre elles. Chaque numéro est thématique, Carte au trésor, Maison hantée, et le troisième sera sur les Amazones.
Le troisième numéro sera sur les Amazones.
Exactement.
Alors, je signale, alors c'est très bien, merci. Merci de la paire. Je signale qu'au début mars, nous ferons une émission sur les Amazones avec Christian Rossi pour son album chez Casterman. Voyons, on va pas se quitter de sitôt.
Notre Pelaza. Formidable. et chaque numéro aussi est scindé en deux. C'est-à-dire qu'on a la moitié en chronique et analyse critique et l'autre moitié qui est en fiction. Que ce soit la prépublication avec nos partenaires ou la création originale. Voilà. Et on va augmenter tout ça, que ce soit par le site, par l'application et par les livres qui arrivent.
Puisque vous allez également passer à l'édition.
Exactement. C'est parti, quoi. On a 4 romans qui sortent cette année, on a 4 essais, cinéma, série, jeux vidéo, et on a 2 comics.
Et Al-Sanat, quand on écrit pour une telle revue, est-ce qu'on pense à son texte en fonction de toutes ces extensions, je ne vais pas dire infinies, parce que c'est l'adjectif qui vient, mais des extensions qui peuvent être de plus en plus larges et fréquentes?
Bien sûr, c'est même l'intérêt. Je pense que ce qu'il y a de très rafraîchissant pour un critique de cinéma quand on écrit pour une telle revue, c'est justement cet éclatement des territoires. C'est l'idée qu'on se souvient que la critique peut être aussi une histoire. C'est-à-dire qu'on cohabite avec des histoires d'ailleurs. Il y a de la fiction dans le numéro, dans chaque numéro de la revue. On cohabite avec la bande dessinée, avec des nouvelles. Et du coup, ça, je dirais que ça imprègne nos textes, en fait, nos textes critiques, d'une dimension, j'allais dire, presque fantasmatique. Enfin, il y a un aspect de fictionnel là-dedans. Et il est bon de se rappeler que la critique de cinéma ou d'autre chose, c'est aussi ça. C'est aussi un genre littéraire à part entière. Et c'est un mélange, je dirais, effectivement, de journalisme et d'esthétique, mais c'est aussi raconter quelque chose. Voilà. Donc, c'est très sain, à mon sens, qu'on cohabite avec tous ces territoires-là, parce que on est dans une optique où un critique de cinéma va se retrouver à écrire sur l'architecture des parcs d'attractions.
Très bon article.
Avec Jérôme Dittmar, on a travaillé effectivement sur les parcs d'attractions, et ce qui est l'occasion donc à la fois de parler de cette mode, vous savez, des parcs délirants, complètement pantagruéliques et inspirés de Star Wars par exemple. Il y a un projet actuellement
d'Harry Potter,
bon voilà, de toutes ces mythologies, et puis aussi de faire un pont avec les territoires fictionnels, le cinéma. Typiquement, on parle dans cet article du toboggan de la mort,
voilà.
Roller coaster,
qui est sorti d'ailleurs récemment, je crois, chez Elephant en DVD.
Voilà, 77, le film. Et donc, effectivement, comme tu dis, par sérendipité, Raphaël, on passe aussi à Jurassic Park, à Monde Ouest et à tous ces territoires-là. Donc, c'est vrai que quand un critique sort un peu de son domaine de compétences pour écrire sur le réel, eh ben, il y a un vrai des possibles qui s'ouvrent, quoi.
Oui, parce que les extensions peuvent le renvoyer à la fiction. On peut partir d'un article sur la fiction pour être renvoyé réel. Donc, d'une certaine façon, avec cette espèce de paysage mouvant et perpétuellement recomposé, vous avez un objet global permanent. Vous n'avez pas une espèce de petite lucarne dans laquelle vous êtes compressé.
Non. Ben, puis c'est assez significatif aussi sur les auteurs de fiction qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a une nouvelle de Calvo qui, dans le méta,
qu'on salue.
Voilà. Qui est avec Toxoplasma, et la nouvelle inédite qu'il nous fait purement dans ce qu'il aime et dans ce qu'il définit, là où il excelle. Et je croise les doigts pour le Grand Prix de l'Imaginaire. Et Grant Morrison, qui est quand même toujours dans sa lutte magique avec Alan Moore et revisite le principe des Watchmen dans Multiversity, mais de manière complètement démente. Et Warren Ellis, qui part une nouvelle fois dans une autre direction, et toujours avec cette manière de parler d'aujourd'hui, d'essayer de le connecter avec le réel, parce que ce sont quand même des auteurs qui absorbent le réel de manière très très forte, pour le re-raconter.
Alors on va essayer de creuser le thème, puisque chaque numéro de la revue Carbone, donc 4 par an.
4 par an, un par saison.
Trimestriel, avec un centrage thématique fort. Le premier est consacré à la carte au trésor.
Thank you.
revue Carbone numéro 1, une revue papier, donc, Carbone Inc. existait déjà en webzine auparavant avec un thème qui est celui de la carte au trésor. Alors Raphaël Penaza, vous êtes donc directeur de la publication Carbone. Quelle est la raison du choix ? Parce que effectivement, la carte au trésor, la carte, le trésor, là on est dans une mythologie. Ce sont des thèmes sans mémoire qui renvoient à un passé. Vraiment, on peut aller au plus loin possible. On peut toujours rester avec cette idée de localisation dans le présent terrible. Donc, les motivations de ce choix ?
C'était, je crois, l'exercice le plus difficile qu'on ait eu à faire, c'était de choisir le thème du premier numéro. On en a listé, je crois, une trentaine. On a de quoi faire et on n'arrive pas à se décider sur le premier numéro. C'était à l'affect, c'était en fonction de ce qu'on aimait. Et d'un coup, celui-là est apparu parce que c'est celui qui caractérise le mieux le principe même de la revue et de comment on veut la concevoir, de comment on veut travailler les trajectoires entre elles. Et je trouve que le travail de Superscript sur le sommaire est hyper représentatif de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on propose un chemin qui est non linéaire dans les articles, alors qu'on peut très bien prendre la revue, lire les articles, lire l'ouverture du dossier par Jérôme et continuer sur les articles.
Oui, Jérôme Dietmar, donc rédacteur en chef, a donné une belle ouverture qui totalise l'ensemble de la revue.
C'est un beau sommet sur la carte au trésor. De Stevenson à The Last of Us, je pense que le champ est assez bien couvert.
Donc la carte au trésor, ça symbolisait pour vous, je dirais, les enjeux à la fois de ce que doit être une revue aujourd'hui, et puis en même temps une sorte de thématique plus ouverte possible.
Exactement. Et la manière qu'on a de concevoir la culture. Comment on fait la connexion entre un article sur Cooper, une nouvelle de Laurent Kessy et une bande dessinée adaptée de moi, Camille. Comment on arrive à connecter par le sujet, par des thèmes, les rapprocher. Il ne s'agit pas de rapprocher le lapin et le chasseur, mais c'est vraiment qu'est-ce qui les connecte. Et c'est aussi une philosophie qu'on a en termes de création, d'essayer de retrouver ce côté, je ne vais pas dire proto, mais plutôt organique dans la conception, en écriture, même avec toute la bonne méthode du monde, à un moment donné, c'est en discutant avec des collaborateurs, avec des gens, qu'il y a quelque chose qui se passe.
Elle s'adapte, la carte au trésor, c'est une thématique qui vous est proche.
Oui, moi ça m'a évoqué immédiatement, quand Jérôme Dietmar m'en a parlé, les cartes au trésor de Spielberg. C'est pour ça que j'ai fait ce rapprochement qui est, alors un rapprochement, j'allais dire, très, très sensé, puisque c'est entre Spielberg et J.J. Abrams, Abrams se revendiquant de Spielberg. Et justement, on avait envie, comme disait Raphaël, de tracer, voilà, de jeter un pont de singe entre les deux, et puis d'explorer, voilà, encore une fois, et de chercher la différence entre les artefacts poursuivis chez Spielberg et ceux qui sont poursuivis chez J.J. Abrams. Mmh. Et donc, c'est par exemple l'occasion, à travers ce thème, d'interroger la fonction des objets poursuivis par Indiana Jones typiquement, d'explorer en fait ce chemin qui est un chemin vers la croyance, puisqu'à chaque fois c'est l'histoire d'un archéologue pragmatique cartésien ne croyant pas finalement à la vertu aux vertus magiques des artefacts poursuivis, qui est amené finalement à croire, voilà, à retrouver la croyance des pierres magiques, de l'Arche d'Alliance ou du Graal, enfin voilà.
Et en être témoin.
Et d'être témoin et de se rendre à la croyance. C'est comme ça, c'est à la croyance qu'il doit son salut. Et chez Abrams, on a exploré cette fonction-là aussi, dans un cinéma qui est beaucoup plus postmoderne, qui est beaucoup plus, j'allais dire, dépassionné, peut-être plus, plus méta, où en fait l'artefact n'est pas tant dans le film que à l'extérieur. C'est pareil, il y a ce principe d'inviter le spectateur à chercher ses propres trésors, en fait, de film en film, de série en série, par un procédé presque transmédia, finalement.
Oui, mais qu'il a commencé assez tôt, d'ailleurs, hein, que ce soit sur les campagnes de com qui menaient au début, ou même la saison 2 d'Alias, qui était absolument démente là-dessus.
Absolument.
Même ce qu'il fait en tant que producteur sur Fringe, c'est quand même d'une audace assez dingue. C'est raconter des histoires qui sont, mine de rien, qui finissent par devenir complexes et les rendre simples. Voilà, ce qui réussissait dans Star Trek aussi.
Alors ce thème donc de la carte au trésor, d'ailleurs est-ce au singulier ou au pluriel ? C'est au pluriel qu'effectivement ne pas rater là surtout cette entrée là. La carte au trésor, vous avez scindé la revue donc Carbone en trois temps. Le premier dessiné, c'est vrai que d'abord la carte, c'est une affaire de conception, de dessin. Ah,
c'est le premier truc qu'on fait quand on est enfant.
Première chose, voilà.
Quand on est enfant, on planque des trésors.
D'abord, on dessine. Ensuite, on obtient un résultat qui est un résultat magique, un peu, puisque à l'intérieur de la carte est l'emplacement du trésor. Ensuite, on décrypte, parce que l'emplacement du trésor n'est pas forcément donné à l'œil et évidemment livré par celui qui a la carte sous les yeux. Et puis après, on explore, parce que une fois que la carte, on a percé le mystère de la carte, eh bien, on peut se lancer dans l'aventure. On replie la carte et on la redépliera peut-être plus tard, mais au moins, en tout cas, on se met à explorer. D'abord, alors, avec ces trois temps, donc vous avez voulu donner là aussi dans l'espèce de déploiement complet du thème de la carte.
C'est ça. C'est vraiment prendre les grands axes et ce que ça nous évoque aussi à différents âges pour pouvoir les creuser. Que ce soit sur l'aspect ludique qu'on a enfant de planquer un trésor, d'en faire la carte, le retrouver l'été d'après ou à la fin de l'été et de retourner chercher. Le fait de comprendre.
De ne plus comprendre sa carte.
De plus la comprendre. Et moi, je me rappelle d'une case dans Tintin, je crois, c'est Trésor de Rackham le Rouge, avec les trois bouts de cartes qui se superposent et d'un coup, mon cerveau, il est. C'était fantastique, quoi. J'ai fait des cartes sur papier calque derrière. Je crois que ça m'a bien occupé. Mm-hmm. Et après, ça a été l'exploration avec les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, que ce soit sur Mega Drive ou SNES, les cartes dans Zelda. C'est les premières choses dont je me rappelle. Très symboliquement, ça a été la carte chez Tolkien, dans Zelda, et ensuite ça a été Indiana Jones. C'est vraiment...
Donc vous avez vécu une enfance bercée par les cartes et tout ce qu'elles offraient de rêverie. Vous avez eu des cartes aussi, Yael Sadat, vous-même ?
Oh, j'ai eu quelques cartes, oui, mais je préférais justement moi cette carte métaphorique, cette carte mentale. J'aimais beaucoup les cartes mentales et puis les cartes des jeux vidéo, encore une fois, ça a été très important.
La première carte qui m'a impressionné, c'est celle d'Edgar Poe. Enfin, c'est vrai que les cartes de Verne et d'Edgar Poe ont quelque chose d'un peu inquiétant, de leur espèce de lisibilité et quelque chose qui finit par être particulièrement angoissant. Alors, à l'intérieur de ce numéro N Carbone, il y a à la fois des textes littéraires, des bandes dessinées, des articles d'analyse, il y a même des articles bidons, des articles qui sont là, mais bon, on ne dit pas lequel.
Qui sont connectés, en fait, à la
voilà, des entretiens. Donc, on trouve à peu près le développement de toutes les formes possibles journalistiques et rédactionnelles. Mais, ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture de Jérôme Dittmar, très érudite, montre bien que depuis les Ptolémaïques jusqu'à aujourd'hui, la carte a toujours été là et qu'elle a bien évolué, bien évidemment. Mais que vous donnez à ce mot de carte au trésor, des significations très contemporaines qui dépassent, je dirais, la carte traditionnelle de l'explorateur 19e, pour être aujourd'hui une fascination pour la notion de lecture, la notion de lisibilité, la notion, je dirais, de localisation et la notion de trajet. C'est-à-dire qu'on fonctionne à l'intérieur de la revue un peu comme à l'intérieur d'une carte. Il y a tout un jeu là-dessus sur la notion de fonctionnement, de circulation et d'identité et de localisation.
Tout à fait. Et encore, on l'a allégé, hein, parce que sur le prototype, on avait des renvois internes, on avait poussé très très loin. Voilà. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait pas tout fermer non plus. On avait peur d'être un petit peu trop. Je trouve pas le mot, c'est un peu trop complexe pour le coup. Voilà. Là, l'idée, c'est d'avoir une approche ludique, en fait.
C'est vrai qu'effectivement, le ludique se bat un peu avec le complexe dans ce premier numéro de Carbone. C'est très dense et c'est très fouillé. Alors, on va prendre un peu les catégories de publication. Tout le plaisir de la lecture, c'est évidemment de passer de l'un à l'autre, mais ça, c'est au lecteur de s'en rendre compte et d'en faire l'expérience. Mais on va passer peut-être d'un thème, d'une catégorie de proposition à l'autre. Par exemple, pour ce qui est des textes littéraires, qui avez-vous choisi?
Sur la fiction littéraire.
Voilà.
On travaille avec Laurent Kessy.
Laurent Kessy, oui, qu'on a déjà reçu à cette émission, grand spécialiste de Dick, auteur, traducteur, scénariste.
Il vient de sortir sa bande dessinée, d'ailleurs, sur la biographie de Dick, qui est par ailleurs trois fois dans la revue. Enfin, une fois direct parce qu'il fait une nouvelle dans l'univers du roman qu'on sort dans les mois qui viennent, qui sera le premier roman Carbone. Et qui traduit Grant Morrison et qui traduit Normal de Warren Lewis. Ça, moi, j'ai percuté là-dessus il y a un mois, c'est assez rigolo. On a Calvo, en partenariat avec La Volte, et qui nous a fait une nouvelle inédite qui s'inscrit dans la continuité de son roman Toxoplasma. On a Warren Ellis, qui était quand même une des figures tutélaires de ce qu'on cherche à faire.
Alors Warren Ellis, vous nous offrez d'ailleurs le premier chapitre d'un formidable roman qui va paraître au Diable Mauvais, Normal, alors qu'il y a un Warren Ellis assez vertigineux et très angoissant lui aussi.
Sur une tentative de déconnexion, ouais, qui commence avec une prise d'otage, avec une brosse à dents, avec une femme qui veut absolument voir des mèmes de chat, dans un hôpital où on apprend à être déconnecté. Ouais, c'est d'ailleurs la nouvelle est illustrée par un artiste coréen qui est incroyable, qui s'appelle Yoon Jin, et qui colle très très bien avec le sentiment qu'on peut avoir à la lecture du roman.
Il y a même une nouvelle de fantasy là qui domaine du merveilleux.
Ah oui, exactement.
La richesse est telle que même...
Je suis en train de la repasser. C'est vrai qu'il y a 272 pages et je suis dans le bouclage deuxième, donc tout a tendance à se télescoper. Oui, il y a une nouvelle qui s'inscrit dans l'univers du Pas du Cerf, qui est écrit par Mathieu Rivero. Rivero, d'ailleurs, je vais le dire correctement. Illustré par Christophe Regnault. Et qui se passe 10 ans après le roman qu'il est en train d'écrire et qui sortira en octobre. Voilà, Mathieu est... est éditeur chez nous, mais il est également romancier. Il a déjà fait 4 romans au Mouton électrique, dont Tout au milieu du monde, avec Julien Bétan et Melchior Ascaride, qui est un petit bijou. Et c'est vrai que cette nouvelle-là est un bijou de mélancolie.
Également, Raphaël Penaza, Yad Sadat, des classiques, des grands classiques patrimoniaux. Alors, je vois notamment Tezuka qui apparaît là avec son île au trésor, bien évidemment. Jacques Kirby est également présent. Martin-Pierre Baudry a donné un article sur l'exagèse de Philippe K. Dick. Effectivement, on a besoin de se repérer à l'intérieur de cette espèce de gigantesque continuum et cette extraordinaire somme de feuillets disparates. Et il y a un article sur Metropolis, dont là aussi il faut arriver à se repérer et à se localiser, puisque comme il est dit, c'est un film qui a été filmé de plusieurs manières différentes, simultanément.
Tout à fait. Il me semble aussi qu'on continue à les connecter aussi avec Clark Ashton Smith dans la revue. Ouais. De toute façon, un des objectifs, c'est de réussir à faire la connexion entre les débuts d'un genre qui nous parle, qui nous fait vibrer le fantastique et qui nous emmène de Ambrose Bierce, noveliste américain, à True Detective et le South Gothic, en passant par Lovecraft, Howard, la relation épistolaire qu'ils ont pu avoir, Poe, bien évidemment. Et tout un univers qui a fini par grandir et qui continue en fait à s'accumuler et à grandir.
Tout ça, la caractéristique, c'est qu'il faut des cartes mouvantes. Il faut pas des cartes qui soient définitivement tracées. C'est un peu la logique de ce numéro, Yael Sadat, c'est que aujourd'hui la carte doit être en expansion. Jusqu'à présent, la carte, eh bien, elle donnait une délimitation, elle donnait une sorte de géographie intérieure d'un objet quel qu'il soit. Aujourd'hui, la carte doit évoluer, la carte doit pousser.
Oui, absolument, puisqu'on doit, en fait, aujourd'hui, le spectateur, le lecteur fait sa propre carte, j'allais dire. Tout le monde est capable, en fait, de redessiner, de faire ses propres productions culturelles. Donc, la carte est un peu insaisissable, comme ça, un peu labile. Et donc, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement que Il y a un enjeu, je parlais donc justement d'Indiana Jones pour ça, c'est que la croyance...
Alors où il y a des cartes justement, là, tous les déplacements sont marqués
exactement,
à l'ancienne.
Exactement, ouais, qui sont tracés comme ça entre les États-Unis et Shanghai ou l'Inde. En fait, tout ça c'est un imaginaire qui est, j'allais dire, qui tombait en désuétude si on ne le ranimait pas, puisque chercher un trésor, fondamentalement, c'est une activité de passionné, j'allais dire de quelqu'un qui croit, qui a foi en quelque chose. Et dans l'époque est un peu dépassionné, si bien que on avait envie de remettre en jeu cette espèce de croyance dans les puissances de la recherche, de que le spectateur s'implique dans une carte qui soit dans une recherche, une carte au trésor, un jeu, une piste au trésor qui soit à la fois intellectuelle et puis narrative.
Alors là on parle de carte au trésor, mais comme nos auditeurs l'ont remarqué, on parle de carte, à aucun moment on ne parle de trésor. Alors aujourd'hui, finalement, rappelle Venaza, à l'issue de ce premier numéro de Carbone, quelle idée vous vous faites de ce qu'est aujourd'hui le trésor pour à la fois les amateurs d'imaginaire, de genre, et puis peut-être pour l'homme d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pour lui constitue le trésor? Parce que même à un moment, on arrive à ce moment extraordinaire je ne situe plus l'article, c'est aussi une des vertus de la revue, c'est qu'on ne sait plus très bien où c'était, mais on sait que ça existe. Le trésor est constitué par un vide. C'est le vide dans la boîte qui est le trésor lui-même.
Oui, et en fait, c'est une question qui est quand même vachement complexe.
Ah bah, écoutez, j'avoue pour ça que je vous la pose.
J'avoue que pour moi, en fait, le trésor, quand je lis une revue comme celle-là, ou même quand je lisais une revue comme Crow, c'était de découvrir quelque chose, en fait. C'est d'abord me dire, tiens, je connais pas cet auteur, je vais aller le chercher. T'as un Joe Daly, c'est qui, quoi? Et découvrir et d'en faire l'acquisition, de le trouver à la bibliothèque, mais de plonger dans un nouvel univers, de plonger dans un nouveau récit. J'avoue que ce sont les histoires qui me font vibrer et ce serait cool s'il y avait de l'argent à la clé, mais là c'est pas le cas. C'est des mots du papier et c'est moi qui dépense.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de développement comme ça, hyper médiatique de la revue. C'est là où justement la quête du trésor peut continuer. C'est-à-dire que vous offrez à vos lecteurs la possibilité de continuer la quête ailleurs.
Tout à fait. Et on se dit peut-être qu'à un moment, on va avoir quelqu'un qui va comprendre que l'ensemble des articles, des univers, des numéros à venir sont interconnectés et qu'on aura quelqu'un qui va réussir à créer lui-même sa propre carte. Je suis assez admiratif, il y a David Honora qui a fait une carte des films qui est absolument dingue, que j'ai affichée dans mon bureau. C'est le genre de choses qui me fait encore plaisir, en fait, à voir.
Et, j'espère que le plaisir est toujours là.
il est toujours là. Et un des objectifs qu'on a avec l'application, et ça ne sera pas pour tout de suite parce que ça demande quand même un gros boulot, c'est de réussir à proposer une navigation par errance ou en suivant une trajectoire par suggestion. Voilà, en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on aime, mais en nous proposant des nouvelles choses qui peuvent se connecter. Donc avoir vraiment ce travail de mind mapping, mais via une application.
La revue Carbone, donc, qui passe du webzine à la forme solide, disponible dans toutes les librairies, on peut le dire.
Toutes les librairies, normalement, librairies spécialisées, Fnac, Cultura, De Citre et voilà. Relais.
Premier numéro consacré aux cartes, au trésor. Le deuxième, ce sera les maisons hantées.
Tout à fait, avec une couverture de boulet, une histoire inédite de boulet, du Neil Gaiman.
Qui vous dites boulet? De quel
boulet? Boulet.
Jean Boulet?
Non, boulet, dessinateur et scénariste qui avait un blog, qui a toujours un blog assez formidable, qui a sorti des carnets et qui a maintenant une collection chez Delcourt autour de la science. Voilà, on a une nouvelle inédite de Neil Gaiman et on a en prépublication un nouveau comics de Jonathan Hickman.
Elle s'adapte, on va terminer en faisant appel à vos capacités qui sont grandes de critique cinéma. Peut-être le dernier film sur lequel vous écrivez pour Carbone.
Eh bien, c'est le nouveau film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau, Shape of Water.
Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas? Puisque nous, on en parlera sûrement dans cette émission.
Alors, j'en pense que c'est tout à fait dans la logique de l'exploration de Guillermo del Toro, qui est un amoureux, comme on le sait, des monstres, et particulièrement des Universal Monsters. Donc vous savez, ces monstres rendus célèbres par Universal, et notamment celui-là, c'est une sorte de variation autour du film de Jack Arnold, de 1954, qui est L'étrange créature du lac noir. Et donc donc on retrouve une créature très similaire, capturée par l'armée américaine, entreposée dans une base militaire, et torturée par un odieux agent secret comme ça. C'est Michael Shannon avec ses yeux fous qui interprète cette espèce de barbouze tortionnaire. Voilà, absolument terrifiant. Et cette créature, donc, est prise d'abord en pitié par une jeune dame pipi, si j'ose dire, voilà, qui travaille dans l'entrepôt et qui va tomber amoureuse de cette créature. Et donc là, on retrouve effectivement, on repense aux scènes aquatiques de danse érotique entre la créature de Jack Arnold et puis la jeune nageuse qui accompagnait l'expédition de scientifiques qui étudiaient cette nouvelle forme de vie, une sorte de chaînon manquant entre l'homme et le poisson. Donc là, il y a une véritable romance dans le film de Del Toro qui va émerger. C'est touchant justement pour cette capacité à filmer un monstre, voilà. Mais cela dit, on est quand même dans un schématisme qui est très très loin de la subtilité qu'il y avait chez Jack Arnold.
Très bien, bah écoutez, on ira voir le film et nous en parlerons bien sûr à votre suite. À Mauvais Genre, en tout cas, le numéro de la revue Carbone est paru et il faut le lire. C'est la nouvelle découverte de toutes les affaires pour tous les amateurs de culture, de genre et d'imaginaire. On termine cette émission, bien sûr, avec Christophe Beer.
Quand je verrai que c'est la fin, je mettrai ce bloc-notes dans la boîte métallique. On le retrouvera peut-être intact. Je vois. Maintenant, les fourmis sont à moins de 20 mètres de nous. Toutes énormes, dressées avec leurs gros yeux étranges et leurs terribles mandibules. J'aperçois Jim dans un tourbillon noir. C'en est fait de lui. Affreux. Horrible. Je ne trouve plus les mots. Dans un instant, je vais me faire sauter la cervelle. Ce sera préférable. Les voilà sur nous! L'univers est noir. L'univers n'est plus qu'un ramassis de fourmis géantes. Je... Vision infernale. Infernale, je... Des clameurs de mort et d'épouvante. Tout vacille et tournoie. C'est la fin, je... Ce final éprouvant est celui de La Bataille Noire, publié en 1954 dans Fiction. Premier récit terrifiant de B.R. Bruce, alias Roger Blondel, l'auteur du Mouton enragé. Il annonce ses romans de la collection Angoisse du fleuve noir que Roland Lacourbe dissèque dans une plaquette pourvue d'une minutieuse bibliographie, B.R. Bruce, un maître de l'angoisse, aux éditions Semper Enigma. Bruce sait en effet conduire le lecteur dans les tourments psychologiques d'un enquêteur, passant de l'incrédulité au doute avant que la peur dévore l'écriture, comme dans l'extrait cité. Le narrateur bégaye, ne maîtrise plus sa pensée, les phrases se figent en des mots effarés jusqu'à s'interrompre, abandonnant le lecteur au cœur du chaos. Inspiré par la folie collective de Pont-Saint-Esprit, « Nous avons tous peur » est un chef-d'œuvre qui reprend la virtuosité du récit à la première personne, dans lequel un journaliste cherche à percer le secret d'une bourgade d'une région forestière canadienne que ses habitants désertent, tous en proie à des cauchemars morbides. Le tambour d'angoisse est le journal de bord d'un géologue, l'un des deux survivants d'une expédition scientifique campant dans le bush australien, une orfèvrerie d'épouvante. Par le bruit lancinant et inexpliqué d'un roulement de tambour, par de petits détails insolites, dans une économie d'effets, Bruce y propage l'insécurité, insinuant un impalpable surnaturel aussi dévastateur que les fourmis gigantesques de la bataille noire. Dans son texte de présentation, La Courbe rappelle le passé vichiste du romancier. Condamné à mort par contumace, il avait vécu 10 ans à se cacher en écrivant sous pseudonyme. Cette décennie à construire son dossier de défense pour un procès en appel le familiarisa sans doute avec les tortures de l'âme et une angoisse sourde et désespérée, celle-là même qui contamine ses meilleurs livres.
Merci Christophe Beer, merci Raphaël Penaza et Al Sadat d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. Deux dates à rappeler.
Une rencontre à Bordeaux le 8 mars à la librairie Mola et une rencontre à Paris le jeudi 5 avril à la librairie La Manœuvre, rue de la Roquette.
Merci Raphaël Penaza. Donc Carbone, version papier, également un webzine, donc également un site. Le nouveau rendez-vous de tous les curieux et de tous les amateurs d'imaginaire. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Monteil, Siam Boutata, Claire Martin-Dugard, Céline Céline Duchesnay et François-Angelier Christovir vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain en compagnie de Bertrand Mandicot pour son film Les Garçons Sauvages. Bonne nuit à tous.